Hier, par le père Philippe, à Rimont, le 9 mai 1989.
Il y en a qui n'ont pas compris que la relation est au-delà du mouvement, ou en dessous du mouvement. Qu'est-ce qui n'a pas compris ça? Et pourquoi n'a pas compris? Le mouvement est ou dans la quantité, ou dans la qualité, ou dans la substance. Le mouvement est mesuré par le temps et par le lieu. Quand il s'agit du mouvement local. La relation, il n'y a pas de mouvement dans la relation. Pourquoi ? Parce que la relation n'existe que grâce au fondement. Alors, le fondement est ou action et passion, donc c'est le mouvement, ou qualité ou quantité, ou substance. Donc, il peut y avoir un mouvement selon ces différents fondements, mais comme la relation, c'est un pur ad, il n'y a pas de sujet pour la relation de pur ad. Variété dans le purade. C'est tellement ténu. C'est trop ténu pour être dans le devenir, pour que le devenir puisse être à l'intérieur de la relation. La relation ne termine pas un mouvement. Le fondement de la relation termine le mouvement, mais la relation comme telle est un résultat. C'est très intéressant, parce que vous voyez, vous avez ce qui est, vous avez ce qui devient, voilà trois grandes modalités de l'être, ce qui est, ce qui devient, la relation. La relation se ramène à ce qui est, mais comme ce qu'il y a de plus ténu. Et la relation comme telle ne peut pas devenir dans la relation. À devenir dans le fondement de la relation, mais pas dans la relation.
Mais c'est ça qui est que si le devenir affecte chacun des deux relatifs. Deux corrélatifs sont plus ou moins relatifs.
Les similitudes, hein.
Oui, ils sont.
Vous pesez 110 kilos. Hein, comme tout le monde. Bon, je pèse aussi 110 kilos. Ben, nous sommes.
Ça, c'est l'égalité.
Copains,
c'est l'égalité.
110 kilos.
Mais quand on dit. On devient de plus en plus semblable, par exemple. On devient de plus en plus semblable.
Mais non, c'est faux. On ne devient pas. C'est faux. C'est vous qui dites ça. On ne devient pas de plus en plus semblable. On est semblable. Vous avez déjà vu quelque chose qui est de plus semblable?
Je sais pas, l'expérience courante, on dit.
Ah oui,
ils se ressemblent de plus en plus. Ils se ressemblent de plus en plus.
Qu'est-ce qu'il y a?
Dans l'expérience courante, on dit ils se ressemblent de plus en plus.
Ah, ils se ressemblent, croyez?
Je crois.
Non, tu en dis avant les jumeaux.
les âmes sœurs.
Ah oui. Les âmes sœurs, ils tendent vers l'unité. Donc ils s'en sortent de plus en plus. C'est une manière de parler.
Au fond,
c'est le fondement qui est de plus en plus qui grandit dans l'ordre de la qualité comme fondement de la relation. Et la relation ne bouge pas.
Oui. Et l'amitié, c'est une relation
aussi. L'amitié est une relation, mais elle grandit par le fondement.
C'est pas un peu comme la substance seconde et la substance.
C'est pas la relation comme telle. Quoi?
C'est pareil, un peu la substance seconde comme telle, elle est au-delà du devenir.
Mais ah oui, mais alors là, c'est.
Elle est affectée par le sujet existant.
Toujours la substance seconde. La substance seconde, elle est comme ça à cause de l'abstraction. Elle a un mode universel. La relation, non, elle est comme ça. Pas la même chose du tout. Oui. Réfléchissez, puis découvrez le mouvement dans la relation. Dans le relatif. Oui, c'est la confusion. C'est pour penser au relatif et pas à la relation. Oui, le relatif, c'est sûr, le relatif est pur. Mais deux amis se rapprochent. Oui, ils sont de plus en plus proches. Son relatif se rapproche. Et ça, c'est le relatif. C'est pas la relation. La relation est la même. C'est très joli, ça, tu vois. Oui.
Est-ce qu'on peut dire que la relation, c'est plus un aspect formel, donc ça ne touche pas le...
C'est extrêmement formel. C'est un purade. Le in de la relation a un fondement. Mais le had, pros. C'est réel. Vous savez, c'est difficile à saisir. C'est réel, son fondement est réel. Son fondement est de raison, c'est une relation de raison. Dans la relation de raison qui n'est pas de mouvement, j'espère que vous le comprenez, ça. Dans l'homme. C'est à cause de ça, relation de raison. Mais dans la relation réelle, à cause de son fondement réel, il va y avoir du plus et du moins. Quand c'est qualitatif, quand c'est quantitatif, oui. Bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre question ? Je continue, si vous voulez. Oui.
Vous avez dit que vous avez écarté tout de suite la substance seconde.
Ah oui, c'est, je reviens dessus. Il est revenu là-dessus. Substance seconde. La substance seconde, c'est l'homme. Bon, c'est un être abstrait qui a un mode universel. Comment voulez-vous qu'il y ait une relation ? La relation, elle existe. Comment voulez-vous qu'il y ait du mouvement, je veux dire ? Elle existe.
Oui, mais c'est un prédicament quand même.
Ah, mais c'est justement ce que je dis. C'est que je dis, dans les prédicaments, c'est un prédicament, c'est une attribution. C'est tout. Mais l'attribution, qu'est-ce que c'est que l'attribution ? Un être de raison. Quand j'attribue homme à Pierre, c'est un prédicament et d'autres temps. C'est l'attribution. Mais. Alors. Allons-y maintenant. Nous étions donc arrivés au livre 3, la question du mouvement. Et si vous vous souvenez bien, je vous disais qu'il fallait bien comprendre, au point de vue philosophique, le lien entre ce qui est nu à ce qui est mu, et je découvre le mouvement comme propriété. découvre le mouvement comme propriété. Donc, le mouvement comme tel est propriété de la philosophie de la nature, la philosophie de la matière. Ce qui est nul. Donc, je pars d'un mouvement honteur. Découvrons le feu, et découvrons le feu, la nature feu, l'élément feu. Et je reviens sur ce mouvement qui est le mouvement vers le haut, en voyant que le feu a cette propriété d'avoir un devenir. C'est pour ça qu'il est léger. Alors, voyons, étant donné la distinction en chaque genre de ce qui est entéléché et de ce qui est en puissance, l'entéléché, entelekeia, l'entéléché de ce qui est en puissance, en tant que tel, voilà le mouvement kinésis. Oui, c'est kinésis, hein, c'est pas ce qui émue, c'est le mouvement. Par exemple, de l'altérer en tant qu'altérable, l'entéléchie et l'altération. C'est l'entéléchie. Hein. Et nous avions vu au point de vue métaphysique que ce qui émue est un mode de l'acte. Vous voyez la différence, considération. Si on est au niveau philosophie de la nature, donc on part d'entéléchie. De ce qui est susceptible d'accroissement et de son contraire, ce qui est susceptible de décroissement, il n'y a pas de nom commun pour tous les deux. Accroissement et diminution. Du générable et du corruptible, génération et corruption, de ce qui est mobile quant au lieu, mouvement local. Donc vous voyez bien, cette manière de définir le mouvement, propriété de ce qui est mu, ou propriété de la nature. Que le mouvement soit bien tel, c'est clair, d'après ce qui suit. En effet, quand le construisible, en tant que nous le disons tel, est entéléché, il se construit. Et c'est là la construction. De même, l'apprentissage, la guérison, la rotation, le saut, la croissance, le vieillissement. Vous voyez bien ça. L'entéléchie de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Voilà le mouvement. C'est donc le mouvement et la propriété de la nature. La nature est source de cette entéléchie. Bien la nature cause efficiente, mais la nature cause formelle, elle est source de cette entéléchie. Et la matière explique que c'est l'entéléchie de ce qui est en puissance en tant que. D'autre part, certaines choses sont à la fois en puissance et en entéléchie, non pas ensemble, certes, ni sous le même rapport, mais comme ce qui est chaud en puissance, froid en intelligence. Il se fera dès lors beaucoup d'actions et de passions réciproques, car tout sera en même temps actif et passif. Par suite, le moteur naturel est mobile. Tout être de ce genre, en effet, meut en étant mu lui-même. Il paraît à certains que tout moteur est mu. Non, mais à ce sujet, nous verrons ailleurs ce qui en est, car il y a moteur qui est immobile. Donc tout moteur n'est pas mu. Quoi qu'il en soit, l'acte de la chose qui est en puissance, quand on la prend dans l'entéléchie qu'elle possède en tant qu'elle est, en acte, non en elle-même, mais comme mobile et mouvement. Alors, regardez attentivement ce point de vue-là. Il y a énergie et intellegia. Pour ceux qui s'intéressent à la question de energeia et entélégie. Energe, c'est le verbe. Mais alors, il traduit mal. Quoi qu'il en soit, l'acte de la chose qui est en puissance, quand on la prend dans l'entélégie, qu'elle possède en tant qu'elle est en acte, non en elle-même, mais comme mobile et mouvement. Très difficile à traduire. Ça demanderait une traduction. Parce qu'il n'y a pas acte. Je dis d'autre part, en tant que, donc le lego, le tico, que saint Thomas reprendra Aristote, le lego, le tico, je dis d'autre part, en tant que tel, car l'airain est en puissance sa statue. Mais cependant, l'entéléchie de l'airain, en tant qu'airain, n'est pas mouvement. Car l'essence de l'airain et l'essence de l'être qui est en tant puissance est telle mobile ne se confondent pas. Ah, la petite précision intéressante. Hein. Donc, je dis donc, en tant que le est, je dis en tant que, car l'airain est en puissance statue. Mais cependant, l'entéléchie de l'airain en tant qu'airain n'est pas mouvement. Car l'essence de l'airain est l'essence de l'être. Étant en elle, qui étant en telle puissance et telle mobile, ne se confond pas. Oui, ça c'est parti des subtilités d'Aristote. Le mouvement, c'est l'entéléchie de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Donc, c'est pas l'entéléchie de l'airain. L'airain comme tel n'a pas de mouvement. C'est le mobile. L'airain comme tel, c'est la nature forme. C'est pas la nature forme qui est en mouvement. C'est la nature matière. Donc, en tant qu'en puissance. L'airain en tant qu'en puissance, donc, le mouvement, c'est l'entéléchie de ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Donc, si je meux cette craie, le mouvement, c'est l'entéléchie de cette craie. Non. C'est l'entéléchie de ce qui est ma vie. En tant qu'immobile. Autrement, le mouvement serait caractéristique par rapport à la forme. c'est le mouvement. C'est le mouvement des reins, mais pas le mouvement. Vous voyez ? Monter en haut, c'est le mouvement du feu. C'est pas le mouvement comme tel, puisqu'il y a descendre en bas. Il y a le mouvement circulaire. Donc le mouvement comme tel, oui, le mouvement comme tel, c'est l'antéléchie de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. C'est une précision très importante. Tandis que dès le mouvement relève de telle nature, et donc la forme. Alors je ne définis pas tel mouvement, je définis le mouvement. Et c'est pour ça que c'est la philosophie de ce qui est mieux. C'est pas la philosophie du caillou. C'est pas la philosophie du feu. C'est la philosophie de ce qui est mieux. Comme tel. Oui, vous avez une question.
Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que le mouvement comme tel n'a pas d'autre finalité que lui-même, alors que la nature en mouvement a une finalité ?
Exactement. Ce qui est mu a une finalité par sa nature. Mais le mouvement comme tel est une telle qu'il y a de ce qui est en puissance en tant que puissance. Le mouvement comme tel déterminé est en acte. Vous voyez, ça vous fait bien comprendre la différence entre la forme et l'acte. Vous arrivez à voir à peu près. On va continuer. Vous verrez mieux. Parce que plus on lit d'Aristote, plus on comprend. L'essence de l'airain et l'essence de l'être. Venez, l'essence de l'airain et l'essence de l'être. Donc, l'être à l'airain, c'est toujours la même chose. L'être à l'airain, il détruit. Et alors là, c'est toujours le tout anthropo-einein. C'est une chose qu'il faut comprendre. Le tout anthropo einein. L'être à l'homme. On traduit, tricotraduit, l'essence. Absolument. Alors il met à l'airain, l'être à l'airain, l'être à l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'être à l'homme ? Le tout anthropo-einein.
Fait qu'il existe.
L'être à l'homme. C'est l'être déterminé dans l'homme. Hein? C'est pas l'être tout court, c'est l'être déterminé à l'homme. Dans un langage scolastique, n'est-ce pas, de Saint Thomas, qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait l'essai qui vient actuer telle nature. Donc c'est pas l'essence de l'homme, c'est juste inverse.
Est-ce qu'on dit que c'est précisément ça le terme du jugement d'existence ? Ce qu'atteint proprement
oui,
le jugement d'existence.
Oui, le jugement d'existence, le ceci est, où saint Thomas dira que le jugement, c'est ipsum esse rei. Quand vous dites ipsum esse rei, vous dites l'essai de la chose, ou laisser à la chose. laisser de la race, laisser à la race. Vite. Quoi ? Petite nuance. Fondamentalement, c'est la même chose. C'est laisser à la chose ou laisser de la chose. Vous voyez, laisser, si je traduis selon le grec, c'est anthropo. Doctant. Ah, ça déjà l'anthropos. Toujours anthropo. Statif. Oui.
Est-ce que dire laisser de la chose, ça ne met pas une distance plus grande entre laisser et la res que de dire à la chose?
Oui, sûrement. À la chose, c'est immanent. L'autre, ça vient de l'extérieur. Il y a une petite nuance comme ça. Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Laisser de la chose, laisser à la chose, les deux sont vrais. Mais quand Aristote dit anthropo, je crois qu'il veut montrer justement l'unité plus profonde. Oui.
Donc il y a la différence entre l'être à l'homme et l'être de l'homme.
Et c'est justement ce qu'on cherche. L'être à l'homme, l'être de l'homme, mais c'est attribué à l'homme, de. Mais c'est à l'homme, mais c'est appartenant à l'homme. Il y a l'idée par le datif, par le oui, l'appartenance, ça c'est juste plus immanent, je crois. Oui.
On peut presque dire que quand on dit deux, c'est déjà un jugement d'attribution, alors oui. Ça, c'est vraiment un jugement d'existence. Oui.
J'aime mieux la formule grecque, qui n'est pas équivoque. Hein. Moi, j'ai toujours traduit ipsum esseri, l'existence de la chose. Si je reviens en grec, je dis, ah, attention, c'est à dire.
Bon. En latin, c'est aussi bien génitif que le datif.
Oui, c'est pour ça. Je dis en latin, je peux prendre les deux. Alors est-ce que ce mot-là doit revenir à l'origine grecque? Pour comprendre. Parce que c'est calqué du grec, ça. Quoique la formule-là, je me série, n'est pas dans Aristote, je crois pas. J'ai jamais vu. Oui, j'ai vu Aristote, anthropo, do, anthropo. Et puis ici, c'est l'être de l'airain. Le calco. Le calco. Alors le calco, hein. Vous voyez tout de suite ce que c'est que les reins. Bon. Voilà le texte. Ugarto oto to calco einain kai dunamei tini kineto. Ce n'est pas la même chose, c'est ce qui est dit. Car, alors, l'essence de l'airain est l'essence de l'être qui est en tant puissance. Car l'essence de l'airain est l'essence de l'être qui est en tant telle puissance et telle habile ne se confondent pas. Car si elles se confondaient absolument quant à la définition et non seulement quant au sujet, l'antéléchie de l'airain, comme airain, serait mouvement. Mais elles ne se confondent pas, comme on l'a dit. On le voit aussi quand on considère les contraires. En effet, le fait de pouvoir être sain est autre que le fait de pouvoir être malade. Sinon, le fait d'être malade serait le même que celui d'être sain. Ça y est. Or, le sujet, dont on affirme le saint et le malade, est une seule et même chose, qu'il soit haut ou sans. Donc, le sujet et ses attributs ne se confondent pas. De même que la couleur ne se confond pas non plus avec le visible. Par suite, on voit que si le mouvement est entéléchi, c'est de ce qui est en puissance en tant que cela est en puissance. une démonstration très intéressante, très amusante. Ça, c'est bien de l'Aristote, hein. C'est bien grec. Arriver à discerner ce qui est mu du mouvement. Ce qui est mu, c'est les reins. Et le mouvement, c'est pas les reins. Le mouvement, c'est l'acte de ce qui est en mouvement. C'est l'antéléchie de ce qui est en mouvement. Vous voyez ? Et ceci, c'est très intéressant. Parce que les reins ne peuvent pas être en acte. Tandis qu'un téléchi de ce qui est en puissance peut être en acte. Si je prends un téléchi, un télékeya et énergéya.
D'une manière concrète, ça voudrait dire quoi en puissance en tant qu'il est en puissance?
Qu'est-ce que oui.
Ça voudrait dire quoi en puissance en tant qu'il est en puissance?
Oui, en tant qu'il est en puissance. Dans une réalité qui est vue. Prenez les reins. Qu'est-ce que c'est que le mouvement de l'air? Je veux séparer ce mouvement de l'air. Pour se dire, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Là, ce mouvement, c'est l'intelligence de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Je peux saisir, puisque l'air est en mouvement, et donc en puissance. Je peux donc saisir le mouvement en me séparant des reins, sans regarder les reins. Regarde, intelligent, si j'en puisse être en puissance. Mais pas en tant qu'il est telle chose. En tant qu'il est telle chose, en tant qu'il est des reins. C'est pas le mouvement. Je regrette.
Est-ce qu'on peut dire si je parle de la nature, je peux dire que je peux regarder le mouvement du cœur en tant qu'il affecte de un sujet avec un point de départ et un point. Et tandis que si je regarde que le mouvement.
Propriété. Le mouvement est propriété, alors que dans ce qui est mu, vous voyez, vous avez une seule réalité, ce qui est mu. Regardez la nature, vous pouvez découvrir la propriété. C'est là l'analyse. Ce qui est mu est une réalité. Le mouvement n'est pas une réalité. Il est intelligent de ce qui est en puissance en tant qu'il est en puissance. Mais comme on chosifie le mouvement, alors au contraire, on montre que le mouvement, et oui, c'est un attribut, c'est une propriété. C'est très fin comme analyse. Et voyez, c'est à partir de là qu'il peut y avoir une philosophie de la nature. Toute science implique un principe et une propriété. Parce que le propre de la science, c'est d'attribuer la propriété à un sujet grâce à un principe. J'attribue mouvement à R1. Ce bloc terrain est mu. J'attribue mouvement à R1. Comment pouvez-vous l'appliquer? Mouvement. C'est une propriété qui provient de quelque chose qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Dans les reins, je sais sa potentialité en tant que tel. Faut dire qu'il est. Ce n'est pas les reins qui est. Les reins comme tels, ils sont forts, pas mûrs. Mais les reins, en tant qu'il est une nature, physique implique la matière. En tant qu'il implique la matière, il est en puissance. Donc il est capable d'être.
Le premier moteur, il est lié à la physis ou au mouvement? Il est lié au mouvement?
Mouvement. Puisque le premier moteur, je ne saisis pas sa physis. Je dis qu'il est immobile. Que le mouvement comme tel n'est jamais premier. Donc, s'il existe un premier à partir du monde physique, il est nécessairement le mouvement. Puisque le mouvement est justement intellectuel de la puissance en tant que puissance. Or, la puissance n'est jamais première. Donc, le mouvement est le premier. Là, vous saisissez bien la distinction que les Grecs ont pu faire entre ce qui est et ce qui n'est. Donc vous êtes là à l'origine de la distinction du devenir et de l'être. C'est quand même important. C'est très important de définir le mouvement, parce que par là, vous le distinguez de ce qui est. Comment ça, tu peux comprendre ? Le mouvement comme tel, kinesis. Donc le mouvement comme tel, l'entelekeia, que ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance.
Quelle est la distinction que Platon ne fait pas quand il fait de la forme l'être ? Parce que justement, ça repose un peu là-dessus.
Exactement. Platon ne voit pas ce que c'est que devenir. Pas pareil. Héraclite. L'influence d'Héraclite sur Platon est très grande. Ça fonctionne. Au fond, pour Platon, n'existe que la forme. Le mouvement n'existe pas. Le mouvement est inintelligible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de philosophie de la nature. Pour Aristote, le mouvement est intelligible. Entelekeia. Il est très fort. Et quand vous voyez toute la critique, il faudrait la prendre, toute la critique de Bergson sur la définition du mouvement chez Aristote. On a tous vu ça. Dans le temps, je dis. On était tous bergsoniens. Imbécile d'Aristote, il n'a pas vu ça. Personne, enfin, saisit la durée. Il saisit le mouvement. Mais, parce que c'est gros, cette critique de Bergson. C'est très gros. Par rapport à Aristote, il n'a absolument pas compris ce que c'était qu'Entelekeia. De ce qui est en puissance, en tant qu'il est en puissance. Il n'a pas compris que le mouvement comme tel ne peut être intelligible que par la métaphysique de l'art. Vous voyez, facile à comprendre, vous allez tout de suite saisir. Parce que Bergson, c'est la philosophie de la qualité. Étant donné qu'il est quand même une philosophie de l'art, Bergson. Donc j'ai une philosophie de la qualité. C'est une table magique. C'est entendu, hein? Regardez. Ah, vous ne voyez rien, vous voyez. Et c'est lui qui actionne.
C'est parce que vous étiez sur la plaque du micro.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'était sur la plaque du micro.
Je sais, c'est ça qui fait tout. Vous voyez ? Là, on voit une musique électrique, vous pouvez taper dessus, vous avez des sons différents. La face du coup, on dirait un amen. Alors, pour Platon, c'est la forme. Eidos. Qui est le mouvement fluxus. Le mouvement n'est pas forme. S'il était forme, il ne serait pas un mouvement. Donc, c'est inintelligible. Donc le mouvement n'existe pas. Il est inintelligible. Tandis qu'au contraire, c'est la philosophie mettre en acte. L'être en puissance. Le mouvement, synthèse des deux. Ce que fait Hegel, synthèse des deux. Être et non-être. Donc le mouvement existe. L'être et non-être n'existent que comme une division dialectique. Pour Hegel. Ce qui est mu, qui est évidemment la réalité. Les deux extrêmes, Platon et Hegel. Et par rapport au mouvement, vous voyez tout de suite. Et ceci parce que ni Hegel, ni Platon n'ont saisi la philosophie de l'être en acte, l'être en puissance. Tout est là, jugement d'existence. Là, vous voyez très bien que s'il n'y avait pas la philosophie de l'être en acte et d'être en puissance, vous ne pourriez rien dire du fluxus, du mouvement. commencez à saisir. Il faut bien agiter. Panne d'arrêt. Oui.
Ça veut dire que l'unité d'intelligibilité de la philosophie de la nature n'est jamais plénière avant la métaphysique de l'acte.
C'est sûr. C'est-à-dire que, vous voyez, la métaphysique de l'acte est d'autant plus importante pour la philosophie de la nature que l'intelligibilité de la philosophie de la nature est particulièrement débile. C'est l'intelligibilité du corruptible, c'est l'intelligibilité du devenir, c'est particulièrement débile. C'est dans ce sens-là que je vous disais, il n'y a pas de substance dans notre monde physique. Alors ça va très loin, c'est la question que s'est posée Arimon à Saint-Jodard. Puisque Dieu crée des êtres subsistants. Vous dites, pas de substance dans le monde physique. Pas de création. On est resté là-dessus. Je dis, maintenant réfléchissez. Je ne sais pas s'ils ont réfléchi beaucoup. L'acte créateur de Dieu se termine à une réalité subsistante. Y a-t-il une substance dans notre monde physique ? Père Gérard des Lauriers, disait qu'il fallait prendre le mot substance analogiquement. C'est faux. La substance est un principe. Un principe, c'est pas pris analogiquement. C'est connu analogiquement, mais c'est pas pris analogiquement. Parce qu'un principe est indivisible comme tel. Il ne peut pas y avoir une diversité. Comment y a-t-il une diversité dans l'indivisible? Pour un matheux, c'est bien. Qui est des réalisations de la substance selon des modalités très différentes? Oui, je pose, je ne pas le Or, y a-t-il dans notre monde physique une substance? Et d'autre part, notre monde physique existe. Il existe en devenir. Il existe pour quelque chose. Mais non pas en lui-même. Mais il est en soi, il est pour soi. Le manche à balai. Ça, c'est tout à fait ça. Oui.
Le jugement d'existence atteint l'acte d'être, mais est-ce que ça ne suppose pas quand même justement quelque chose de fondamentalement une substance?
Alors, un caillou, existe. Il y a la substance du caillou.
Non, pas tant le caillou que la terre. Fondamentalement.
Pas fondamentalement, de manière ultime. Pas fondamentalement, de manière ultime. Est-ce que le feu est une substance? Mais c'est tous les rapports. Il faudra y venir au terme. Les rapports entre nature et océan.
Mais, est-ce que c'est pas ça tout premier moteur d'Aristote?
C'est sûr. Le premier moteur reste au-delà de la nature. Et il est, ça ne résout pas.
Il est selon l'acte alors que les stoïciens font une âme du monde.
Quoi? Ça, c'est sûr. Mais pour avoir un support. Et pour Aristote, il y avait des formes, voyez, qui a des sens. Ça permettait beaucoup de choses. Ça permettait des substances spirituelles qui enveloppaient le monde. Si nous supprimons tout ça, la seule réalité subsistante dans notre univers, c'est l'homme. C'est l'âme. Âme spirituelle. Alors, est-ce que je peux dire ça de façon absolue? Si Dieu, autrement dit, pour Dieu, crée un monde purement physique, sans la création de l'homme et de la femme, bien sûr, ce serait contradictoire. Au moins contraire à sa sagesse. Ce que je crois, tu vois. Pour Dieu, créer Dieu qui est l'être éternel, absolument ça. Créer le devenir, le monde physique. Est-ce que pour Dieu, ça peut avoir une signification propre? Est-ce que Dieu peut s'amuser avec le devenir? Oui, créer le devenir pour créer son chef-d'œuvre, l'homme et la femme. L'alliance de la matière et de l'esprit. Et pour permettre la procréation. Moi, je trouve ça beaucoup plus beau. C'est pas commode, alors, d'expliquer le statut existentiel de l'univers. Mais...
Il y a un acte créateur.
Ah oui, il y a un acte créateur, c'est sûr. Ça, c'est pas gênant. Vous voyez, l'acte créateur de Dieu... Bon. Il est dans l'éternité. Donc est-ce qu'il est terminé? L'acte créateur de Dieu. Le dernier moment de l'acte créateur de Dieu, c'est quand? La glorification des corps. C'est dans l'éternité. Et vous, c'est un petit commencement. Il y a un petit acte créateur, un petit coup de chiffon, un petit
cours de philosophie de la matière par le père Marie-Dominique à Rimont, le 18 mai 1989.
Y a-t-il des questions ? C'est ça la question. Alors je crois que on avait réfléchi quelques instants sur le point de vue de la substance et de l'océan. Le point de vue de c'est-à-dire de la nature et de l'océan. La fausse et l'océan. C'est une question très difficile. Je vous disais que Phosis est typiquement grec, présocratique. Ousia, je crois, n'intervient qu'avec Platon. Il y a des chances que ça a été projeté un peu au-dessus, mais ça n'intervient pas. Et ça intervient avec la découverte du Toron. Évidemment. Je crois. Ousia n'est pas chez Parménide. Hein? Et je crois que ça n'intervient qu'avec le point de vue de l'arbre. Si tu restes intéressant. Et ça, c'est Platon qui introduit ça dans la philosophie grecque. Et alors, de fait, saint Thomas, parce qu'il est théologien, donc un garde-foi, unit nature, substance, essence, DNP, essentiel. Ce petit livre de jeunesse de saint Thomas est très intéressant. Et vous savez bien que pour un historien comme Gilson, c'est l'intelligence de saint Thomas qu'on doit découvrir dans le DNP essentiel. C'est là où on découvre tout saint Thomas. C'est pas tout à fait juste, mais c'est intéressant qu'il y a vraiment des intuitions de jeunesse de saint Thomas qui sont dans le DNT Saint-Cia qu'on retrouve tout le temps. Ça, c'est sûr. je n'ai pas le pouce sous les yeux. Je vais essayer de trouver. Coffre, il y a. Je ne crois pas qu'on puisse, au plan philosophique, dire ça. En théologie, on a le droit. Parce que tout ça relève, vous voyez, d'une recherche de la détermination. Donc, cause formelle. Dans l'ordre, vous devez le dire. Dans l'ordre de ce qui est. Dans l'ordre critique. Dans l'ordre aussi critique de l'intelligibilité. Bon, tout ça, c'est l'ordre de la cause formelle. Donc, pour le théologien, place au-dessus, on peut utiliser ça, presque indifféremment. Et c'est là où on voit très bien comment, si on veut redécouvrir une philosophie à partir de la théologie de saint Thomas, on ne voit plus rien du tout. Puisque les distinctions fondamentales entre devenir et ajouter l'âme, parce que vous pouvez ajouter l'âme, mais tout ça, c'est vrai, c'est la cause formelle. C'est l'interrogation du tiesti. Je crois qu'en philosophie, nous devons être très attentifs à la découverte de la cause formelle au niveau du devenir, au niveau de l'être, au niveau de la vie, au niveau critique. Au niveau de l'intelligibilité critique, au niveau logique. C'est pour ça que je ne peux pas faire comme ça. Ça me semble impossible. C'est ce qui rend la scolastique si insupportable aux esprits un peu précis. Vous voyez, c'est un fait. La scolastique décadente que saint Thomas et saint Alten des Anciens, œuvre de jeunesse. Prodigieux, mais c'est très intéressant parce que c'est une œuvre de jeunesse. Il ne serait pas saint Thomas, il serait tombé dans les oubliettes. Une bonne dissertation que vous faites, hein. Tant que vous n'êtes pas saint Thomas, c'est tombé dans les oubliettes. Mais si vous devenez un génie, alors c'est génial. Posthume. Alors, la phusis, c'est principe. Go. Dans l'ordre du devenir. L'ousia, principe, cause, dans l'ordre de l'être. Et l'âme, dans l'ordre du vivant. Ceci, c'est l'analyse. Hein? C'est dans l'analyse. C'est au terme d'une induction. Donc, ça implique une certaine division de la réalité et saisie d'un principe. Tout principe implique un pause de la réalité. Donc, je passe du tiesti au pause. Vous comprenez, quand je me pose la question, est-ce que dans une réalité physique, y a-t-il une substance? Vache, qui a une âme particulière, y a-t-il une substance? D'une certaine manière, c'est une question idiote. Puisque l'analyse, c'est l'analyse. Je ne peux pas passer d'un domaine à l'autre. Je peux voir les analogies. Je peux dire la phusis est à tout ce qui devient ce qu'est la substance par rapport à l'être. Je peux le faire. Donc je fais une analogie. Mais ce n'est pas une confusion. Ce n'est pas une identité. Je ne peux pas dire ceci. Oui, sophisme. Je je peux pas dire ceci. La nature forme est dans l'ordre du devenir ce que l'ousia est dans l'ordre de l'être. Donc, partout il y a nature, il y a substance. Quel sophisme! Le fait en théologien. Voyez, au niveau des principes, le devenir n'est pas l'être. Au niveau du pos, le devenir existe. Toute réalité physique existe. Le devenir existe. Ceci est mu. Donc, si ceci est mu, il y a donc nature. Substance, d'une certaine manière, puisque ça existe. La substance, c'est dans la mesure même où ça existe. Le devenir existe, mais il existe d'une certaine manière. Il existe en devenir. Alors, toute la question est de savoir si, dans ce devenir, il y a une réserve d'être. Plafond ou un souterrain qui est dans l'ordre de l'être et qui n'est pas soutenu par le devenir, qui n'est pas transformé par le devenir. Et on posait la question d'Aristote quand il s'est posé la question de devenir substantiel. Quand on dit que entre les éléments il y a des transformations mutuelles dans l'ordre des vivants, il y a des générations substantielles, on veut dire que toute la réalité du devenir, toute la réalité du vivant est mue. Mue jusque dans sa substance. Par la mesure où il y a substance. Par la mesure où il y a substance. Quelle est la substance des réalités physiques? Je crois que c'est la nature matière.
Devenir.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Substantiellement en devenir. Donc elle n'est qu'en devenir.
Non. Je crois que le monde physique n'est qu'en devenir. C'est pour ça que je dis dans le monde du devenir, je peux distinguer des phosis. Et puis-je dire qu'il y a aussi un. Mais non. Quel est aussi un dans le monde physique ? Ce serait là. Et l'âme humaine. Je crois que seule l'âme humaine subsiste. Mais c'est le rôle de la personne. La personne est une substance. C'est pas seulement une nature. Alors vous allez me dire, alors, il n'y a pas de stabilité dans le monde physique. Il y a une stabilité fondamentale. Dure matière, qui n'est pas intelligible comme telle, qui est intelligible que par le point de vue du mouvement. Je crois que je ne peux pas dire au niveau du pouce, vous voyez, c'est pour ça que je dis, distinguons bien les deux. La scolastique n'a plus distingué les deux. Avec suffisamment de netteté. Là, je suis au niveau du jugement d'existence. Ici, je suis au niveau de l'analyse. La diastie. Et je saisis les principes. Le principe nature est autre chose que le principe substance. Et autre chose que le principe âme. Et je ne peux pas dire que la nature est substance. Mais non. Ça n'a pas de sens. Au niveau du diastie. Au niveau du pouce, ah, c'est autre chose. De quelle manière la nature existe-t-elle ? à ce moment-là, ce n'est plus nature comme principe. C'est la réalité physique qui existe. Cette réalité physique existe, bien évident. Notre monde existe. Je ne dis pas du tout que notre monde n'existe que dans ma pensée. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce que ça fait très bien comprendre l'idéalisme et la fameuse question de la fameuse vie, qui dit que le monde n'a de signification que quand on pense. C'est dit ouvertement dans Husserl. Le monde n'a de signification que lorsque je pense. Et si je ne pense pas, est-ce que le monde a de signification ?
La signification, elle est, c'est nous qui la donnons.
Oui, c'est nous qui la donnons. Oui, mais est-ce qu'il y a une signification fondamentale ?
Bah, en lui-même, il ne pense pas le monde.
Quoi ?
En lui-même, il pense pas.
Mais un chat, est-ce qu'un chat a une quantité ?
Il en a une pour moi.
Ah, pour vous et pour moi aussi. Est-ce que c'est votre pensée qui donne au chat sa signification ?
Et il en a une en lui-même.
Quoi ? Elle est fondamentale dans le chat. Le chat est une nature. Indépendamment de votre pensée. Pour vous, le chat est une nature que si vous pensez.
Mais nature et signification, c'est pas la même chose.
Oui, oui, oui. Hélas. La nature forme donne aux choses leur signification. C'est pour ça que la nature suffit à expliquer toutes les lois du monde physique. C'est pas la substance. C'est la nature. Nature et quantité. Vous voyez ? La nature, la faucille forme implique une quantité. Et fonde toutes les lois. C'est pas la substance. S'il n'y avait pas de principe dans le devenir, ah, je suis d'accord. Le devenir serait comme le temps. Oui. Le temps n'est temps que si je le pense. Alors, je suis d'accord pour le temps. Oui, c'est très, on verra ça à propos du temps. C'est très important. Mais le monde physique a une signification objective. Elle n'est pas en acte. Et la nature suffit pour expliquer ça. Je n'ai pas besoin de parler de substance. Oui, alors je reviens toujours à la même question. Pouvons-nous dire que dans le monde, il y a une substance ? Le monde physique. Alors le père Gérard Delorier, en bon matheux, disait, je peux dire qu'il y a une substance analogique. Mais vous comprenez qu'il y a une substance analogique. Est-ce que je suis encore en face d'un principe ? Non. Le principe a son autonomie. Il est premier. Il dit analogique, il est second. Ou faut saisir un principe indivisible, qui est un principe. Ou vous êtes au niveau du pouce. Ah, voilà. C'est ça qui sauve tout. Au niveau du pouce, le monde d'existence, le monde visible existe. Comment existe-t-il ? Il existe. Dans le devenir. Il n'y a pas dans le monde physique de repos. Le monde physique. Et je crois que toutes les recherches de la science d'aujourd'hui confirment cela. Alors c'est pas à cause de la science que je dis ça, c'est tout simplement l'étude même du devenir. C'est pour ça que vous ne pouvez chercher la substance que par rapport à l'homme. Et là je purifie énormément Aristote. Je crois que je dois le dire. Et la scolastique. Parce que la scolastique a répété Aristote sans comprendre. Je pose la question là. pensons. Et ben, c'est ce qu'est la substance. Oui.
Je pense que ça veut dire que le monde physique est de facto ordonné au corps de l'homme.
Là, je réponds, voyez, à Freud, qui montre que les trois, on peut plus dire que l'homme est le centre du monde. On peut plus dire ça. Scientifiquement, c'est bien évident. Les philosophes, quand il dit les trois dégradations de l'homme, c'est pas, qui ont eu lieu, c'est dans la, c'est, je crois bien que c'est dans le, son article sur la civilisation.
Malaise.
La maladie, la dégradation.
Malaise de la civilisation.
Malaise. Les pères de l'Église croyaient que l'homme était au sommet, parce que la terre était au centre, parce que l'homme était créé directement par Dieu, et que l'intelligence était contemplative. Alors il montre trois dégradations dans les trois visions de l'homme. Eh bien, ça demande une réponse. Personne n'a répondu. Et la réponse, je crois, est là. C'est que le monde physique, je peux découvrir dans le monde physique la nature, le pos de l'existence. C'est vrai, il existe. A-t-il en lui une autonomie dans l'ordre de l'être? La substance est tendue. La substance, eh oui, c'est évident que la substance est principe dans l'ordre de l'être. Alors, principe dans l'ordre de l'être, où je découvre la substance? En moi. Je ne découvre pas à partir de la nature. Parce que je peux pousser plus que je peux. La nature, je ne trouverai jamais la substance dans la nature. Parce que c'est principe du devenir. Ce devenir existe. Oui, pose. Voyez, est-ce que, au fond, c'est cette distinction du tiest et du pose que je dois pousser jusqu'au bout pour bien comprendre le passage de la faucille à la fossée. Il me semble.
La génération.
Alors, on part au vivant. Alors, troisième point. L'animal a un principe de vie qui fait qu'il se meut. Donc il a une âme. Une âme végétative, une âme animale. N'est-ce pas? L'âme chez l'arbre. Une âme qui n'est pas immortelle ne donne pas de l'autonomie dans l'ordre de l'être. La seule autonomie qu'a le vivant, c'est son espèce. À la mesure où, grâce à la génération, l'espèce, l'individu est corruptible, et grâce à l'espèce, l'individu survit. Mais l'espèce n'existe que dans ma pensée. Alors là, je suis d'accord avec vous, vous voyez. L'espèce, comme l'espèce, n'existe que dans la pensée. Elle a un fondement réel, et c'est ma pensée qui donne ce mode universel. Et la génération permet à l'individu de survivre au nom de l'espèce.
Rien comment est-ce qu'on qualifie ce fondement réel de l'espèce? On appelle ça comment?
Dans le fait que... Oui, c'est comme le fondement de la loi. Il y a quelque chose
qui est ça. Et qui est du propre vivant.
Oui, propre vivant. Il y a dans le vivant une immanence plus grande que dans le monde physique. Le vivant dure. Il est victorieux de la mort. Il y a une détermination qui est la nature de l'espèce, qui survit.
Parce que pour toutes les lois, il suffit la nature comme
explication. Tout à fait. Absolument pas besoin de plus. La loi ne touche pas l'être. La loi touche des déterminations. Antécédents, conséquents, pas plus. La loi est au niveau de la relation. Toutes les lois sont au niveau de la relation. Pour la nature, sont des relations. La relation est très indépendante de la substance, puisque la relation n'est rattachée à la substance que par son fondement. Ce qui montre l'indépendance de la loi par rapport à la substance. Et c'est ça le gros truc pour les mathématiques. C'est la relation. Les mathématiques demeurent dans l'ordre de la relation et ne dépassent pas la relation. Ça, j'en suis certain. Philosophiquement parlant, et on peut tout expliquer par la relation. Mais la relation ne rejoint l'être que par son fondement. Il peut y avoir des relations de raison. C'est chose inouïe. Hein. C'est ça qui est inouï. La relation de raison. Et ça explique tout le domaine mathématique. La philosophie de la nature est plus proche. Ça, c'est sûr. Parce que justement, l'autre, il existe. Tandis qu'il n'y a pas de pause pour le mettre. Vous voyez, la distinction entre le tiesti et le pause n'existe pas en mathématiques. En mathématiques pures. Je crois. Oui.
Si le monde physique existe pour le corps de l'homme et l'âme, est-ce que je peux dire que le monde physique existe par l'âme?
Ah non, c'est la seule chose.
Dans l'ordre de la fin.
Non, non. Oui, mais par là, dans l'ordre de la fin. Pour. Pas par.
Donc il a aucune.
Il y a dans les choses divines, où le par et le pour.
Donc il a aucune autonomie propre.
Qui?
Le monde physique.
Mais non, aucune.
Alors comment est-ce qu'il peut exister sans avoir aucune autonomie propre?
Mais parce qu'il existe par Dieu. C'est pour ça qu'Aristote ne donne. Mais à l'intérieur de la physique, l'existence d'un être premier. Pas cet être.
Oui, vous voyez, mais c'est délicat, ça veut dire que la création ne s'achève qu'à la personne humaine.
Oui, tout à fait.
Et donc,
et la question se poserait, est-ce que Dieu pourrait, dans sa sagesse, créer un monde physique sans l'homme? Non.
C'est-à-dire qu'il n'a pas d'essai. Vous voyez, ça veut dire que le monde physique n'a pas d'essai propre.
Un essai d'en devenir. Donc, c'est un essai propre qui est d'en devenir. Il n'a pas laissé autonome.
Mais il est dépendant de quoi s'il n'est pas autonome? Quoi? Mais s'il n'est pas autonome, cet essai.
Il est l'organisation interne. Il y a des lois. Il y a une organisation interne. Il y a un équilibre interne du monde physique, dans le fiery. Il n'a pas de finalité propre.
Et sa finalité, c'est le corps de l'homme. Et du côté de l'essai.
C'est pour l'homme. Le monde physique existe pour l'homme.
Alors, est-ce que je peux dire que le corps de l'homme est l'acte du monde physique?
Non, mesure.
À ce moment, ça veut dire que vous voyez, je ne vois pas comment est-ce que Dieu peut créer quelque chose qui ne soit pas subsistant.
Ben oui, mais vous ne voyez pas comment Dieu a créé le monde physique? Moi non plus. Je ne vois pas. Je constate ce qui existe. En constatant ce qui existe, je découvre la nature. Ou la substance. Ça ne me gêne pas du tout de voir que le monde physique est imparfait. Moi, ça ne me gêne pas. Essentiel au monde physique est imparfait. Mais ce qui est très curieux, c'est que cette position-là permet d'accepter tout. tout ce que la science dit aujourd'hui, sans me déranger du tout. Personne ne me dérange pas. Ce qui est terrible, c'est faire le Big Bang. Oui, l'ultime pointe au niveau nature, sans regarder l'homme, sans regarder l'être. C'est là l'erreur. C'est qu'on veut trouver dans le devenir un premier. Il n'y a pas de premier dans le devenir. Il faut dépasser le devenir pour trouver un premier.
Donc, est-ce que je vais devoir déposer les problèmes de la création à partir du monde physique?
Non, pas du tout, vous pouvez pas le trouver. Le Big Bang, c'est une réflexion hypothétique, tout simplement. Ça n'explique rien, et ça n'a aucun intérêt.
Est-ce que le monde physique conduit au problème de la substance?
Oui, par l'homme. Bien évident. Le monde physique, voyez, je dirais ceci, le monde physique conduit à Dieu par la métaphysique de l'acte. Par la métaphysique de l'acte. Autrement, le monde physique reste une attente. Ce que Heidegger dit. Et alors il confond métaphysique, vous voyez. Le monde physique est une attente. Le monde physique dépend d'un être premier. Le monde physique est finalisé par l'homme. Mais je dis bien finalisé. Gros exemplaires aussi par le corps humain. Je ferai comme ça, si vous voulez. Bon, faut... Réfléchissons là-dessus. Hein. Ça demande une réflexion très très profonde. Il y a très longtemps que je réfléchis là-dessus. Évidemment, ça fait dégringoler des tas de points de vue. Hein. Ça allège, oh là là, la psyche, ça allège la scolastique. D'une façon remarquable. Ça maintient la théologie de saint Thomas en la comprenant bien. Ça empêche de découvrir une philosophie à partir d'une théologie. Ce que je suis convaincu. La grosse erreur de Suarez, c'est ça. La grosse erreur de la psycho, de la scolastique décadente, c'est d'avoir voulu trouver une philosophie à partir d'une théologie. Ça ne peut pas se faire. Donc, ça nous oblige de tout repenser au plan philosophique. Et d'aller jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout de cette purification. Des grâces. Enlever toute cette grâce, cette graisse terrible de la scolastique à la paille de fer. On arrive à ça. Moi, on se pose la question. Déjà beaucoup. Moi, je me pose la question. Personnellement, je la conclue dans un sens, mais je dis attention, parce que c'est lourd de conséquences. Alors, on mettrait ça. L'univers, dans sa totalité, il existe dans le devenir. Donc, il existe dans le fier. Il implique des vivants. Substantiel, c'est ça qui est terrible. Hein. Je peux employer le mot substantiel, mais fondamental. Des générations qui touchent la matière première. Qui fait que le devenir dans le monde physique a quelque chose de radical. Physique a son intelligibilité dans la nature forme, a son caractère fondamental dans la nature matière. Ce monde physique n'a pas de premier. Le premier est au-delà du monde physique. C'est un être immobile. Primo Borens, immobile. Premier, bronze et vision. Qui est en même temps consommable. Ce monde physique est pour l'homme. Pour finalité immanente par le point de vue du corps, le point de vue de l'âme. L'âme finalise tout le monde physique et lui donne sa signification ultime. Et le corps est cause exemplaire, donc mesure. L'être premier, donc le créateur, est cause finale extrinsèque. Et cause efficiente. Il n'y a pas d'émurge. Immédiatement, l'être premier. Il est vivant. Les vivants qui ne sont pas l'homme sont comme des degrés. Dans l'être, dans le point de vue du monde du devenir. Le monde du devenir, dans le vivant, a une durée qui est plus proche de l'être. Alors je dirais que le monde physique a quasi une substance. Quasi. Une substance d'attente. En raison même de sa stabilité, en raison même de sa durée chez le vivant.
Cette substance d'attente, elle est en attente de quoi?
De l'homme.
Donc.
Tout génie pour l'homme. Vous êtes le roi de l'univers. Royauté. Tout à fait particulière. Puisque les petites araignées ne vous obéissent pas très bien. Oui, dites.
Ça veut dire que la création du monde physique s'achève avec la création de l'âme.
Ah oui, tout à fait.
Et est-ce qu'on peut dire que la création de l'âme s'inscrit dans la création du monde physique?
Ah oui. Par le corps, dans l'attente.
Est-ce qu'il n'y a pas déjà au-delà?
Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que l'âme n'est pas déjà au-delà?
Ben, elle est au-delà, puisqu'elle est cause finale. Elle est immanente. Et l'âme, vous voyez, pour nous, est en attente de la grâce. Et de fait, de facto, tu as créé l'âme dans la grâce. Il y a une double relativité du monde physique.
C'est pour ça que quand même dans l'homme, l'âme est acte de la matière.
Dans l'homme, l'âme est acte de la matière. Il n'est pas immédiatement l'acte du monde physique. Il est mesure.
Et dans la gloire, elle sera pleinement à mesure de...
C'est dans la gloire que deviendra le monde physique. Ben, je crois que dans la gloire, le monde physique, c'est les corps glorieux. Ça, c'est la théologie. Je crois. Il n'y aura plus de monde physique, il n'y aura plus que les corps glorieux.
Parce qu'il y a cette...
Ce qui montre bien, vous voyez, ce qui montre bien que ce n'est pas substantiel. Parce qu'il faudrait l'anéantir autrement. Parce qu'une substance va se transformer en une substance. Tandis qu'une nature peut s'entendre une nature.
Vous voulez dire que le monde physique se déferait lui-même,
se transformerait, se métamorphoserait dans le corps glorieux. Un nouveau ciel de la terre. Mais ça m'allant jusque-là, on voit que tout est fait pour l'homme, que ce monde a une intelligibilité bien parfaite, des lois, pas plus. Oui.
Vous nous disiez qu'on ne pouvait pas découvrir la substance par la nature,
oui.
Mais vu le lien qu'il y a entre le vivant et la nature, comment on peut découvrir la substance
par rapport à l'homme? Ceci est... Ce monde physique existe il existe dans le devenir. Il existe à travers les vivants. Il existe à travers l'homme. Le Dasein. C'est-à-dire que l'homme existe d'une façon principale, royale. Dasein, l'être vivant. L'être il est dans l'homme. C'est que le corps est la maison de l'être. Le temple de l'être. Et je ne peux saisir l'être que par rapport à l'homme.
Quand vous dites que le corps humain est cause exemplaire du monde physique,
oui.
Et qu'à la fois il est fin,
fin.
C'est l'âme qui est fin.
C'est l'âme.
Alors quelle est la continuité et comment qualifier le rapport du monde physique au corps?
Par le point de vue de l'union substantielle de l'âme et du corps.
Oui, mais du monde physique qui
est physique. Le monde physique
est uni substantiellement à l'âme.
Ah non, par le corps, oui. Dans le corps.
Donc quelle est la continuité entre le monde physique et le corps?
C'est que le monde physique est en attente du corps. Disposition.
Comme une puissance obédiencielle.
Une sorte.
Est-ce qu'on peut montrer que cette attente ne peut pas être comblée que par la gloire, par cette transformation utile?
Je ne peux pas le montrer philosophiquement. Parce qu'alors je démontrerai philosophiquement la nécessité de la grâce. Et je montre que ce monde physique, grâce à l'homme, à sa signification, mais que l'homme est en attente de Dieu.
Donc l'univers est imparfait en totalité.
Tout à fait.
Donc l'homme ne peut pas finaliser l'univers, même par
l'âme de l'homme. Oui, l'homme finalise d'une manière immanente et imparfaite, comme cause exemplaire. La cause exemplaire n'est jamais une finalité parfaite. C'est toujours ces rapports entre la causalité exemplaire et la finalité qui sont si délicats. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Comme c'est important que ce soit. pas au niveau biologique. C'est l'âme humaine qui donne à toutes les recherches sur le vivant sa signification derrière.
Ça veut dire que par la procréation, l'homme a l'initiative libre de donner sa signification au monde physique. C'est pas lui qui la donne comme telle, puisque c'est Dieu qui le crée, mais il est. Ça, au fond, ça s'est remis entre les mains de l'homme.
C'est remis entre les mains de l'homme. Il est gardien. Prenez les termes heideggeriens. Il est gardien de la signification de l'univers. Si l'espèce humaine disparaissait, que deviendrait notre univers? Mais dans un nouveau déluge, sans l'arche de Noé, parce qu'il n'y a plus de Noé. Que deviendrait notre univers? Vous croyez que notre univers demeurerait pour les petits oiseaux, pour les petits chats, pour les petits chiens? Non.
Mais ça, on ne peut pas le montrer philosophiquement.
Ah non, non. Je ne peux pas le montrer, mais je peux simplement montrer qu'il n'y a pas de solution. Le monde physique en lui-même est imparfait, inachevé.
Est-ce que dans un regard de sagesse sur la création, on peut justifier la révélation de la Genèse qui montre que le monde a été créé en plusieurs étapes, ou est-ce que...
Ah, peut-être sûr, hein. Selon la Genèse, il y a deux versions.
Oui, il y a deux versions. Mais est-ce qu'on peut dire que tout ce...
Alors, on peut justifier les deux versions.
Est-ce que tout ce qui existe dans sa diversité, on peut montrer que ça a été créé simultanément?
Non, c'est rien.
On ne peut rien dire. Voilà.
Dans un regard de sagesse, on dit que le pose de la création, nous l'ignorons complètement. La sagesse consiste à certains moments à montrer l'ignorance la plus complète. Ce sont des hypothèses qu'on peut donner. Très bien, je peux donner des hypothèses, un tas d'hypothèses. Ce sont des hypothèses. C'est pour ça que j'ai une connaissance très très faible en philosophie de la nature. La philosophie est faite pour l'homme. C'est là où je vois très bien que la philosophie est vraiment faite pour l'homme. Et c'est l'homme qui m'intéresse. Le monde physique, vu sa grandeur, m'impressionne. Cet infini m'impressionne, dirait Pascal. Ça donne l'effroi. Mais ça n'avance pas plus. Pascal, au point de vue philosophique, c'est très court. C'est admirable au point de vue de l'admiration, mais c'est très court. C'est une abdication constante, constante, constante. Alors c'est très bien, c'est une purge de la philosophie, mais pas plus. Et au point de vue éthique, vous savez, ça va pas loin. Plus grand, c'est presque...